Réplique La banlieue brûle-t-elle avec Raphaël Baquet et Manon Kirouille-Brunel. Quand on se risque à émettre un jugement ou à exprimer une inquiétude au sujet des banlieues françaises, sans jamais quitter Paris intramuros, sinon de temps en temps pour la campagne ou pour des destinations lointaines, on encourt le reproche d'ignorance. On est même accusé de véhiculer des clichés, voire pire encore, d'alimenter les plus vilains fantasmes. Pour ne pas tomber dans ce travers, j'ai invité aujourd'hui deux journalistes aguerris qui sont allés sur le terrain et qui parlent donc en connaissance de cause. Raphaël Baquet et Manon Kirouille-Brunel. Raphaël Baquet a écrit, avec sa consœur du Monde Ariane Chemin, une histoire de trappe, la ville de Jamel Debbouze, Omar Sy et Nicolas Anelka, sous le titre « La communauté ». Aidé par Malek Dehoune, Manon Kirouille-Brunel publie La part du ghetto, longue et minutieuse enquête sur une cité de la banlieue parisienne dont elle a choisi de ne pas révéler le nom. Commençons par vous, Raphaël Baquet, et par le titre de votre livre. Pourquoi la communauté ? Que recouvre exactement ce mot ?
À vrai dire, c'est presque la ville qui nous a donné ce titre, car tous les habitants emploient ce mot. Sans cesse. Viens dans la communauté, on va dans un restaurant de la communauté, jusqu'à la mairie qui a fait sa petite vidéo de promotion, si vous voulez, et qui commence ainsi. Bienvenue dans la communauté des trappistes. Donc, bien sûr, une communauté, ce qui signe une communauté, c'est le sentiment d'appartenance. Et dans cette ville, on voyait bien qu'il y avait un sentiment d'appartenance très fort à la ville, au groupe. Et le revers de la communauté, de la solidarité et de la chaleur qu'on peut ressentir dans une communauté, c'est évidemment une forme d'enfermement. Et c'est aussi ce qui caractérise cette ville de Trappes. Et donc, au bout de quelques mois d'enquête, on a passé un an à y aller extrêmement régulièrement toutes les deux. C'est le titre qui, au fond, nous est venu immédiatement à l'esprit.
Oui, mais vous dites communauté. Évidemment, on entend aujourd'hui communautarisme. C'est un des problèmes que connaît la France, le communautarisme, et notamment le communautarisme islamique. Alors, est-ce que la communauté, cela désigne aussi une ville où les musulmans sont majoritaires et règlent l'existence de tous ?
Non, car en fait, cette ville était une ville communiste auparavant, et elle était déjà une forme de communauté, c'est-à-dire il y avait une forme de repli de cette ville sur elle-même, et le fait qu'elle soit devenue une ville où la religion est si importante n'est peut-être pas complètement indifférent au fait que justement elle ait eu un passé communiste, et cette forme de spécificité, si vous voulez, d'une ville donc communiste dans un département qui était entièrement dirigé par la droite. Et donc ce qui nous a frappé, c'est que déjà ce réflexe communautaire existait avant, et peut-être que le communautarisme religieux que nous voyons aujourd'hui n'est au fond qu'une suite aussi de cette histoire.
Manon Kirouille-Brunel, vous avez écrit La part du ghetto. Ce ghetto, donc, c'est la cité sur laquelle vous avez mené votre enquête. Pourriez-vous parler de cette cité également comme d'une communauté ?
Oui, le terme de communauté, il est pertinent aussi pour la cité dans laquelle j'ai travaillé. Il y a ce sentiment d'une grande famille où tout le monde se connaît, tout le monde se salue le matin. Il y a de l'entraide. Alors effectivement, le pendant plus compliqué, c'est que l'entre-soi appelle toujours un regard que les gens portent plus ou moins lourdement, en se disant que quoi qu'on fasse, tout le monde le sait. Donc, qu'on agisse bien ou pas selon les critères de la communauté, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur les comportements individuels. C'est sûr que cette notion de communauté, elle est très importante dans les cités.
Quelle est pour vous la part de la religion dans, justement, ce sentiment communautaire ?
La religion, elle sert de liant, évidemment. Elle sert aussi de cuirasse identitaire, notamment sur la nouvelle génération sur laquelle moi j'ai plus travaillé, où on a le sentiment qu'ils essaient de se réapproprier une religion qu'ils maîtrisent pas forcément. La plupart des jeunes parlent pas l'arabe, savent pas l'écrire, comprennent pas les prêches en arabe, donc se rapprochent de la religion différemment de leurs aînés, et le revendiquent d'ailleurs en disant « Nous, on se rapproche plus de la religion, donc les mariages halal, c'est-à-dire les mariage religieux devant un imam, aujourd'hui, chez les 20-30 ans, en tout cas dans la cité dans laquelle j'ai travaillé, sont beaucoup plus importants que le passage devant monsieur le maire. On se marie devant un imam selon des règles traditionnelles, avec un mariage traditionnel. Et donc ça aussi, c'est effectivement un liant. Le ramadan, là, puisqu'on est en pleine période de ramadan, c'est un moment aussi où tout le monde se retrouve. Je pense que c'est compliqué de ne pas faire le ramadan quand 95% des gens le font. Et les jeunes ne se posent même pas la question. On fait le ramadan.
Il y a une pression quand même pour que tout le monde le fasse. Quand vous dites c'est compliqué.
Mais je pense pas qu'il y aurait un jugement négatif. La question se pose même pas. C'est-à-dire que tout le monde, le voisin, le frère, le cousin fait le ramadan. Donc on fait le ramadan avec cette idée aussi que le soir, pour iftar, on se retrouve tous et qu'on serait un peu en décalage si on faisait pas le ramadan, puisque la vie est un peu réglée différemment pendant cette période de ramadan qui est particulière pour les musulmans.
C'est la même chose, attrape,
oui,
appelle baquet.
Il est évident que pendant le ramadan, il est très difficile de ne pas le faire. Et on a vécu le ramadan aussi l'année dernière, hein, quand nous étions en pleine enquête. Et c'est vrai que cette espèce de forte identité religieuse, si vous voulez, génère aussi une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes et de femmes nous donnaient rendez-vous hors de trappe pour simplement pouvoir boire un café ou aller au restaurant. Donc, si vous voulez, effectivement, il y a une forme de pression religieuse qui s'exerce.
Alors, là, je vous pose une question difficile, mais si vous voulez, elle me paraît absolument nécessaire. Si tel est le ciment communautaire, y a-t-il une place à Trappes ou dans la cité sur laquelle vous avez mené votre enquête, Manon Kérugo-Brunel, pour les non-musulmans? Peuvent-ils y vivre? Ou sont-ils contraints de partir?
Non, bien sûr qu'ils peuvent y vivre. Il n'y a pas un interdit qui frapperait les non-musulmans. Il se trouve que les non-musulmans, et globalement les non-immigrés, sont progressivement partis de la cité dans laquelle moi j'ai pu travailler. Alors, j'ai interviewé celle qu'on appelle la bobo de la cité. Il n'y en a pas beaucoup, qui est de fait, pas musulmane, je ne sais pas si elle est catholique, en tout cas elle est pas musulmane, et qui racontait que on lui demande absolument pas de faire le ramadan, que en revanche pendant la période de ramadan elle a dû s'habituer au tapage nocturne parce que les gens vivent la nuit et que sous sa fenêtre il y avait des cafés sauvages qui s'organisaient avec des tables qu'on mettait dehors, etc. Qu'elle avait adapté un vestiaire au 93, oui. Ça c'est vrai, ça c'est elle a rangé les mini jupes, les décolletés. C'est pas tant religieux, c'est qu'une femme seule qui se promène dans la rue en mini jupe, elle est mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup d'hommes dehors, parce que les autres femmes du quartier ne traînent pas, et ça c'est une injonction qu'on entend quand même beaucoup. Donc non, les musulmans sont pas du tout interdits de cité dans la cité, mais effectivement il y a aussi des codes auxquels il faut arriver à répondre.
Alors, ils sont pas interdits, mais enfin, la vie dans la cité, si j'en crois justement cette femme que vous avez interviewée, est très décourageante. Parce que vous dites, elle est graphiste, je crois, c'est ça. Elle habitait avec son compagnon dans le 11e arrondissement. Ils ont voulu acheter et ils ont pensé à faire l'acquisition d'un appartement dans cette cité parce que elle s'annonçait comme un futur Brooklyn, puisqu'une fromagerie, preuve irréfutable de gentrification, y a ouvert miraculeusement. Alors on sait ce que c'est que Brooklyn, en effet, c'est devenu le quartier le plus à la mode pour les bobos et pour les hipsters de New York. Mais pour elle, c'était la douche froide tout de suite. Elle dit « j'y suis, j'y reste », mais quelle persévérance il lui faut, parce que le lendemain ou le jour de son aménagement, elle est allée à la boulangerie en face de chez elle, ou en bas de chez elle. Elle a commandé un jambon beurre. c'est quelque chose de si innocent. Mais évidemment, on l'a regardée comme une extraterrestre. Elle dit aussi qu'elle doit adapter, vous l'avez mentionné, un vestiaire spécial 93. Dès qu'elle mettait une jupe, elle se faisait emmerder. On me demandait, c'est combien? Tu me fais un petit truc. Donc, elle a rangé jupe, rouge à lèvres, décolleté. Elle doit se conformer à un ordre moral. C'est le prix de sa tranquillité. Elle peut pas se mettre seule à une terrasse de café. Il y a peu de parcs, pas de commerce. Et puis surtout, et là-dessus, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à ce que ça signifie. La règle est simple, c'est nous, les étrangers, ici. Même règle, attrape, Raphaël Baquet ?
Non, parce que la ville est plus diverse que cela. D'abord, la ville n'est pas, il n'y a pas 100% de musulmans à Trappes. C'est difficile de mesurer d'ailleurs leur nombre, mais il y en a sans doute la moitié en fait. Donc il y a toute une partie de la ville, et en plus, encore une fois, c'était une ville communiste, donc il y a toute une partie de la ville qui sont des anciens communistes athées. donc c'est beaucoup plus compliqué, enchevêtré que cela. Je pense aussi que les musulmans eux-mêmes, une partie des musulmans, voient bien que le rigorisme religieux, une religion très ostentatoire, accélère, si vous voulez, le départ justement des classes moyennes. Chacun en est conscient. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'il y a eu des listes proprement communautaristes qui se sont présentées aux élections, elles n'ont jamais dépassé 7%, 7,5%. Donc, parce que justement, la plupart des habitants voient bien que il y a un revers à la religion qui est effectivement le repli sur soi et donc le départ des classes moyennes.
Et ce départ a lieu donc.
Et ce départ a lieu.
Ce départ
sûr.
A lieu dans des proportions importantes ou par rapport justement à l'époque. Parce que vous dites ça a été une ville communiste, mais oui. C'était une ville communiste au temps où la question sociale oui. était au cœur de la société, si je puis dire.
Oui, exactement.
Maintenant, la question culturelle semble supplanter la question sociale, ou en tout cas, le social ne se réduit plus à l'économique. Il y a une autre dimension. Et en effet, peut-être que ces anciens communistes ne s'y retrouvent pas. D'ailleurs, la question aussi que je voudrais vous poser, ces anciens communistes qui restent, donc qui persévèrent, eux-mêmes utilisent-ils le mot « la communauté » pour parler de Trappes ?
Je vous dis, c'est la mairie elle-même qui aujourd'hui est socialiste oui. qui utilise ce mot. Et le maire est un chevènementiste, donc il est pas musulman. Donc,
il n'est pas musulman, mais vous dites bien dans votre livre quand même qu'il est beaucoup plus liant, beaucoup plus accommodant, au sens d'accommodement raisonnable et même déraisonnable, avec les revendications islamiques que ses deux prédécesseurs communistes.
En fait, il a été accommodant pour se faire élire.
Pour se faire élire, voilà.
Toutes les contradictions voilà. de chacun, si vous voulez. C'est pour ça que c'était intéressant de raconter la ville sur 40 ans et en détail. Parce qu'on voit bien que, par exemple, ce maire, qui est encore une fois un chevènementiste, un laïc pur et dur, par opportunisme politique, si vous voulez, il va effectivement passer un accord avec deux frères musulmans pour construire une mosquée. Ce n'est pas la construction de la mosquée en soi qui est illégitime. C'est l'importance de la mosquée et du projet qui va être tout à fait particulier. Et donc, on voit bien que chacun gère ses contradictions. Et à Trappes, c'est exactement cela qui se passe. C'est-à-dire que une partie des musulmans, même s'ils sont à la fois pieux et pratiquants, voit bien que la démonstration religieuse est un problème social pour la ville. Et une partie de ceux qui ne sont pas musulmans cherchent à s'accommoder avec les habitants.
Il y a aussi Manon Kirouille-Brunel, on le voit dans votre livre, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, une différence entre les générations.
Oui.
C'est-à-dire que les plus anciens n'ont pas la même vision communautaire ou communautariste que les plus jeunes. Vous citez ce Amar Laclas, qui, si j'ai bien compris, le père de Malek, votre
mm-hmm.
guide,
oui.
qu'on appelle Maximus, parce que vous avez écrit ce livre donc avec Malek Dehoun, qui vous a servi d'intermédiaire, qui vous a ouvert les portes,
qui sinon
vous seriez resté fermé. Mm-hmm. Et donc son père dit que lorsqu'il s'installait dans la cité en 1976, il y avait des boulangeries traditionnelles, des boucheries chevalines, des filles en mini-jupe dans les rues. Il n'y avait presque que des Français, une poignée de beurre et même pas un seul noir. Tout le monde était là pour bosser dur. En 40 ans, je n'ai pas eu un jour d'arrêt maladie. Aujourd'hui, on file le RSA à n'importe qui et on accueille toute la misère du monde. Mais c'est avec ma sueur qu'on paie tout ça. Et un autre homme de la même génération, dans une discussion, dit ceci, il livre des pizzas, je crois, il livre un barbu. Le type, il enferme sa femme à clé. Mais, réaction de cette personne, rentre au bled, Fred, on est où là ? Sarko, il avait raison. Si t'es pas content, casse-toi. Le quartier est perdu. Ce n'est plus la France ici. Forcément que les blancs y sont partis. Qui veut vivre avec des burkas, des gosses qui dînent en bas de l'immeuble et des clandos qui volent les sacs à main? Donc, il y a vraiment une rupture générationnelle, Manon Kérubonel.
Bah, effectivement, c'est cette génération qui est arrivée pour travailler dur, comme raconte bien le père de Malek, était aussi dans une logique d'intégration. À tout prix, au point qu'il n'a jamais parlé ni arabe ni kabyle à ses enfants, le père de Malek. Il fallait pas faire de vagues, il fallait voilà devenir français à tout prix, ce qui n'a pas été la logique qui a après guidé la génération des 30-40 aujourd'hui. Et effectivement, pour cette génération précédente, la religion, c'est très privé. C'est quelque chose qu'on n'étalait pas, on allait très peu à la mosquée, on déroulait le tapis de prière à la maison, et puis on discutait de ça entre soi. C'était pas une démonstration identitaire comme ça peut l'être aujourd'hui. Et c'est vrai que cette génération-là se reconnaît pas dans la nouvelle en se disant, mais encore une fois, ces gosses, ils sont nés en France, ils parlent pas la langue, ils parlent pas l'arabe, et ils vont tous à la prière de 14 heures parce qu'on les voit, mais celle à 6 heures du matin, il y a personne. Ils vont aller faire le ramadan, mais juste avant, ils vont quand même aller un peu à Pattaya parce que il faut respirer, on va faire des selfies devant la pierre sacrée. C'est une appropriation de la religion dans laquelle se reconnaît pas, effectivement, cette génération-là.
Oui, alors justement, votre livre, Raphaël Baquet, le livre que vous avez écrit à Karine Chemin, n'est pas simplement une enquête, c'est une histoire.
Oui.
Vous racontez l'histoire de Trappes depuis 40 ans, et donc ces différents épisodes. Alors justement, j'aimerais savoir comment et à partir de quoi s'est effectué ce repli communautaire, voire communautariste. Raphaël
Baquet. Ce qu'on voulait comprendre, c'est comment la religion était arrivée dans cette ville, encore une fois, communiste, athée. Et effectivement, on voit bien qu'elle arrive au tournant des années 90. Hein. C'est-à-dire que la drogue fait des ravages à Trappes, comme dans beaucoup de villes de banlieue. Hein. Et le deal d'héroïne, hein, évidemment, est très important. Et beaucoup de jeunes vont en mourir, soit d'overdose, soit du sida, hein, qui va avec. Et c'est sur ce terreau-là que vont arriver les premiers prédicateurs religieux. Effectivement, d'établir hein, cette espèce de courant indo-pakistanais de l'islam qui arrive et qui va être accueilli à bras ouverts par la plupart des parents parce que évidemment ils préfèrent que leurs enfants prennent le chemin de la mosquée que des caves où ils se shootent. C'est là-dessus que va se faire l'espèce de réislamisation, si vous voulez, qu'ont connu d'autres villes en France, mais en tout cas à Trappes, c'est très très visible. Puis vont arriver tout de suite après les frères musulmans. Et au fond, concomitamment, un islam plus directement politique, puisque arrivent aussi à Trappes des réfugiés du groupe islamique d'Algérie.
Hein,
où la guerre d'Algérie déchire le pays, et vont arriver à Trappes des familles très importantes qui faisaient partie du GIA.
Alors là, c'est une question que je vous pose à tous deux. La réislamisation a-t-elle remplacé les trafics, ou aujourd'hui cohabite-t-elle avec la drogue?
Moi, la cité dans laquelle je travaille, c'est un peu différent, c'est qu'il n'y a pas eu ce grand problème de drogue dure, et c'était d'ailleurs un accord tacite, en fait, entre les trafiquants de la cité et les habitants, c'est qu'ils tolèrent un terrain où on peut dealer du shit, mais les drogues dures, ça se fait en dehors de la cité, ça a toujours été comme ça. Il y a eu un moment où un jeune a essayé d'ouvrir un terrain de crack, et c'est pas la police qui l'a viré, ce sont les anciens, les parents du quartier qui ont dit non, alors ça c'est pas possible, les zombies dans le parc, etc., ça sort. Donc, dans la cité, il n'y a pas eu ce refuge de la religion qui aurait pu permettre un secours de la drogue. En revanche, ça n'empêche pas de dealer du shit avec cette idée que, c'est ce que disent mes jeunes dealers, le shit, c'est comme un légume, ça sort de terre. Donc finalement, c'est pas aussi dramatique.
Donc les deux vont de pair, en fait.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre.
Le shit n'est pas du tout considéré comme un vrai trafic de drogue. Ouais. Donc, effectivement, il y a du deal de shit absolument... Enfin, on le voit d'ailleurs même, on le voit à l'œil nu, hein. On voit les dealers parfois même devant le commissariat. Oui. Mais les drogues dures, en revanche, ont été repoussées.
Oui, mais alors le shit, c'est en même temps, c'est de l'argent facile.
Mais c'est une économie, bien
sûr. C'est une économie, c'est très clairement une économie. Et beaucoup de jeunes peuvent être tentés par une carrière de dealer plutôt que de faire un parcours scolaire qui est difficile, qui est exigeant et qui ne mène pas à des professions où on gagne beaucoup d'argent, Raphaël Baquet.
Oui, bien sûr, c'est bien le problème de ce genre de ville pauvre, si vous voulez, c'est que beaucoup de jeunes ne sont pas diplômés, donc ont du mal à trouver un travail, souvent. Il faut bien le dire aussi, venir de trappe, c'est comme une discrimination supplémentaire, si vous voulez. Les entreprises ne veulent surtout pas embaucher quelqu'un qui vient de trappe. Et donc, dans cette situation-là, beaucoup se tournent vers le shit. Mais il y a aussi des jeunes qui font quand même une scolarité tout à fait normale et qui ont une formation et qui travaillent.
Oui, mais ceux qui se tournent vers le shit peuvent le faire plutôt avant de se heurter à la discrimination. Ils sont des guetteurs dès l'âge de 12, 13 ou 14 ans. Hein, il faut bien le reconnaître. Bon, mais alors, revenons-en à cette question de l'islamisation. Vous dites dans votre livre, Manon Kérouille-Brunel, que ce sont les attentats du 11 septembre qui ont réveillé la communauté musulmane égarée.
Alors, c'est pas moi qui dis ça.
Oui, c'est quelqu'un qui vous l'explique.
C'est quelqu'un qui... Alors, il faut savoir quand même, il faut peut-être préciser qui est ce quelqu'un, qui est un monsieur qui fait son beurre de ça, c'est-à-dire qui lui organise les petits pèlerinages à la Mecque, la Omra, donc hors saison, et qui donc fédère les habitants de la cité, et lui est rétribué en fonction du nombre de personnes qu'il amène au Hajj et à la Omra. Donc, son discours est forcément un peu...
Et est-ce que vous pensez, vous, Raphaël Baquet, que justement les attentats du 11 septembre ont eu un rôle de cristallisation, c'est-à-dire qu'alors que la France, par la voix de les autres Français, disons, par la voix de Jean-Marie Colombani, disait nous sommes tous Américains, il y a un certain nombre de gens dans les banlieues qui ont dit nous sommes tous Oussama Ben Laden et notamment à Trappe.
Mais déjà, on raconte qu'au collège, par exemple, au collège Gagarine, la directrice du collège, la proviseure, voit dès la guerre du Golfe, donc bien
oui,
avant,
ça.
Elle voit des enfants arriver avec des pins Saddam Hussein, ils jouent à la guerre et ils sont les Irakiens. Donc, évidemment qu'il y a une espèce d'ailleurs qui s'exerce et qui s'exerce depuis longtemps, notamment par les télévisions, hein, par les paraboles. Kamel Daoud, je me souviens quand j'ai rencontré Kamel Daoud en Algérie, il disait, mais vous vous préoccupez du voile, mais vous vous préoccupez pas des télévisions. Mais il a d'une certaine façon raison. Hein. Les télévisions étrangères, depuis longtemps, montrent un ailleurs un peu différent de ce que nous montrons. Donc oui, le 11 septembre, et puis ensuite, si vous voulez, le 11 septembre, bien sûr, joue un rôle, mais la deuxième intifada, par exemple, on raconte à Trappe que la synagogue est incendiée, c'est tout à fait en lien avec la deuxième intifada qui fédère d'une certaine façon une partie de la jeunesse.
Et est-ce que vous avez rencontré le même phénomène, Manon, dans la réalité que vous avez hésité, c'est-à-dire un sentiment d'hostilité à l'égard des Juifs lié partiellement au conflit au Moyen-Orient et à l'identification immédiate des jeunes de banlieue aux Palestiniens.
Pas d'hostilité envers les Juifs ou la communauté juive. En revanche, effectivement, l'intifada, c'est pour eux un acte fondateur de rébellion de les musulmans qui redressent la tête et qui sont oppressés et dont ils souhaiteraient voir plus de solidarité. Mais ça se traduit pas du tout par une hostilité envers les Juifs, en tout cas pas dans la cité dans laquelle j'ai travaillé.
À Trappe, si on brûle une synagogue, c'est pas...
Les Juifs sont partis.
Les Juifs sont partis de Trappe.
Oui. Et est-ce qu'ils sont partis, présents? Ils sont d'ailleurs juste dans les villes à côté.
Non, il y en a très peu aussi dans la cité, mais je suis pas sûre qu'historiquement ils existaient beaucoup, enfin qu'ils étaient très présents même il y a 20 ans. Il y avait beaucoup de Portugais, d'Italiens.
Qui sont partis aussi.
Qui sont partis aussi, mais parce que classe moyenne, c'est ce qu'on expliquait, c'est que la mixité sociale disparaît au fur et à mesure. C'est bien le problème.
Pour raconter cet épisode, Raphaël Baquet, de l'incendie de la synagogue, et vous parlez aussi du malaise de nos gouvernants face à un événement comme celui-ci, le refus de le nommer, puisque Daniel Vaillant, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque du gouvernement Lionel Jospin, a dit que cet incendie était l'œuvre de jeunes désœuvrés. Donc il y avait une sorte de malaise, il fallait pas, encore une fois, stigmatiser la jeunesse en déshérence des quartiers populaires, et donc l'événement n'a pas eu l'ampleur qu'il aurait pu avoir du fait de ce malaise de nos gouvernants.
C'est une période où dans plusieurs villes de banlieue, on voit fleurir des tags contre Israël et souvent les Juifs, voilà. Et donc c'est une période difficile et attrape effectivement la synagogue elle-même est incendiée. C'est la première fois qu'on voit une synagogue incendiée depuis la Seconde Guerre mondiale, à vrai dire, hein, en France. Et personne ne sait trop bien comment réagir, comment nommer cet incident, comment. Et c'est toute la difficulté de ce genre d'événement dans une ville comme celle-là.
Maintenant, on réussit un peu mieux à nommer, on a mis du temps, mais vous racontez une trajectoire dans votre livre, et j'aimerais que nous nous y arrêtions, Raphaël Baquet, celle de Jamel Debbouze, parce que Jamel Debbouze est de Trappes, c'est à Trappes qu'il a eu son terrible accident, il est devenu la vedette et même la star que l'on sait, mais il est aujourd'hui, semble-t-il, répudié par une partie de la communauté. Vous nous raconterez les incidents, mais je sais aussi que son dossier est d'autant plus lourd qu'il a fait un voyage avec Mélanie Thuriot, son épouse, en Israël. Et que donc, on dit qu'il est vendu aux sionistes. Mais je vous laisse le soin de nous relater son parcours.
C'est un élément supplémentaire dans l'espèce de déchirure, si vous voulez, qui s'est opérée entre lui et sa ville d'origine, sa ville natale. Enfin, il n'est pas né à Trappes, mais enfin, il y a grandi. Donc, effectivement, il va avec Mélissa Thuriot, sa femme, en Israël, et il va au mur d'alimentation. Donc, il a une kippa, une photo est prise, et cette photo circule. Et évidemment, là, on va une partie des gens de Trappes vont commencer, la rumeur va courir, ça y est, il est devenu juif, il s'est converti. Mais ce n'est pas le seul élément qu'on lui reproche. On lui reproche aussi d'avoir fait de la ville le sujet de ses spectacles et de ses plaisanteries, si vous voulez. Il est aussi le formidable narrateur et récitant de cette ville. Hein. Quand on fait comme nous l'avons fait, c'est-à-dire quand on écoute absolument tous ces sketchs, on peut retrouver chaque quartier et presque chaque famille de Trappes. Et donc, évidemment, l'idée qu'il puisse se tailler un succès sur la ville, ça, c'est évidemment très difficile. Et là, le fait qu'il ait sans cesse parlé de Trappes comme un sujet aussi de plaisanterie, si vous voulez, même si ce sont des plaisanteries affectueuses. Mais là, évidemment, ça a été très mal reçu. Et lorsqu'il est revenu dans les années 2000 faire un spectacle à Trappes, son spectacle a été saboté par une petite bande qui a hué. Et ensuite, lorsqu'il a fait une fête à Paris, au Bataclan d'ailleurs, sa Ferrari a été aussi complètement défoncée.
Plus que rayée.
Elle a été défoncée.
Oui, donc maintenant, il n'y met plus les pieds à Trappes.
Non. Non.
Est-ce que c'est le destin de toutes les vedettes de Trappes, Raphaël Baquet? Il y en a un certain nombre, j'ai cité Omar Sy,
Nicolas
Anelka, mais il y a aussi Sophia Aram, le rappeur Lafouine.
C'est le problème de la communauté, c'est-à-dire qu'il est difficile de s'en échapper d'une certaine façon. Et quand vous partez, c'est une forme de trahison. Et on voit bien comment chacun le gère de façon plus ou moins heureuse. Donc Omar Sy, par exemple, ne dit pas un mot plus haut que l'autre sur Trappes. Hein. Il donne de l'argent pour des œuvres comme ça ponctuelles. Là, il a demandé à ce que le casting de son prochain film se fasse à Trappes. Voilà, Anelka qui y revient de temps en temps avec sa Ferrari, c'est la même chose.
Anelka est moins mal vu que Jamel Debbouze, d'après ce que vous dites.
Non, parce qu'Anelka étant mal aimé, l'enfant mal aimé, le bad boy du foot, d'une certaine façon, une partie des jeunes s'y retrouvent.
Oui, ils se retrouvent donc.
Parce que eux-mêmes ont le sentiment d'être mal aimés quand ils viennent de Trappes.
Oui, c'est un mal aimé du foot alors qu'il avait vraiment tout pour lui. On peut pas dire que c'est un homme qui a été victime de rejet ou de discrimination. Il y a eu ses déclarations, son altercation avec Raymond Domenech, va te faire enculer, etc. Puis il y a aussi la quenelle qu'a fait Anelka dans son club de foot pour célébrer un but par solidarité avec Dieudonné. Et d'ailleurs, elle a été immédiatement exclu du club de football anglais, et ensuite il a eu une carrière d'entraîneur avortée en Chine.
Ouais, c'est ce qu'on raconte.
Et maintenant vous dites, ce qui est quand même assez triste, c'est qu'il vit à Dubaï, où il s'enchante des déjeuners qu'il peut prendre dans un hôtel de 300 étages, ou à peu près.
Exactement. Il vit comme un milliardaire de luxe.
Un milliardaire de luxe, les milliardaires d'aujourd'hui, c'est un milliardaire qui ne jouit de sa fortune que pour jouir de sa fortune, si j'ose dire. C'est pas... Mais alors, je voudrais vous poser une question peut-être un peu indiscrète, Manon Kérouille-Brunel. Pourquoi ne nommez-vous pas la banlieue dans laquelle vous avez fait votre enquête. Avec Raphaël Baquet et Anne Chemin, nous savons, c'est trappe. Vous, rien. Pourquoi ?
Parce que c'était l'accord de confiance qu'on a établi avec nos interlocuteurs, on a changé tous les noms. On a aussi changé quelques détails, modifié pour qu'ils ne soient pas identifiables, parce que la plupart des gens qui se confient des choses qui sont hors la loi. Enfin, c'était aussi l'idée, c'était d'aller chercher une parole un peu interdite, d'être dans la confession. Et donc, pour installer un rapport de confiance, on avait promis qu'on donnerait pas les vrais noms et qu'on citerait pas non plus le quartier. Alors après, les gens qui y vivent ou qui connaissent le reconnaîtront forcément. Mais l'idée, c'était de s'intéresser aux gens et pas tant à l'endroit. Je pense que la démarche était un petit peu différente. Ils auraient pu vivre ailleurs, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils vivent en périphérie de Paris.
Il y a aussi un point commun entre vos deux livres, c'est-à-dire la question des femmes. Vous dites l'une et l'autre que les femmes subissent une forme de rélégation. Votre dernier chapitre avant l'épilogue, Raphaël Baquet, s'intitule « Le café des hommes ». Et votre livre aussi, Manon Kérouille, Brunel, se termine sur la même note. Les femmes n'ont pas vraiment leur place. Alors,
moi, je dirais pas n'importe quelle femme. Parce que c'est ça qui nous a frappés. On raconte effectivement ce café qui est place des Merisiers, donc la place du marché, si vous voulez, à Trappes. C'est le grand café, c'est pas un petit boui-boui, c'est pas un bar PMU, hein, c'est le grand café avec des baies vitrées, des photos anciennes de Trappes. Et nous sommes allés au café sans cesse, Ariane et moi, et donc sans aucune difficulté. Ce sont les femmes maghrébines, celles qui sont censées être musulmanes. C'est elles qui ont des difficultés. Hein. À chaque fois que nous avons voulu leur donner rendez-vous au café, à chaque fois elles nous disaient « Non, c'est pas possible, je vais me faire mal voir, je n'y vais pas, je ne veux pas ». La sous-préfète à la ville, Noria Kiel-Flejo, qui avait voulu faire des groupes justement de femmes pour qu'elles viennent au café, pour leur montrer qu'on peut s'installer à une terrasse de café à Trappes, a organisé ces groupes. Des femmes sont venues, aucune femme musulmane. Donc c'est vraiment une vraie difficulté pour un certain groupe de femmes, et c'est elles qui en souffrent. Hein. Elles ne peuvent pas fumer dans la rue. On les voit d'ailleurs dans le train. Hein. Elles remettent un gilet, éventuellement un foulard avant d'arriver à Trappes. Donc il y a vraiment une régression, il faut bien le dire, pour ces femmes, puisque la plupart d'entre elles, quand elles ont 40 ou 50 ans, disent qu'il y a 20 ans, c'était pas comme ça.
Et vous vous dites, dans le dernier chapitre, je crois, l'adieu à la cité, Manon Kérouille-Brunel, c'est une absence qui saute aux yeux. Dans le quartier, les femmes ont disparu du paysage. Je croise bien quelques mères de famille qui poussent une poussette ou tient un cabas, mais aucune fille dans le parc ou au café. Cette remarque, a priori bien innocente, m'a attiré les foudres de Malek. Malek, votre guide. Mais t'es débile ou quoi? Chez nous, les meufs, elles traînent pas. On n'est pas à Roubaix ici. Genre, elles boivent des bières au troquet comme des bons hommes. C'est quand même effrayant que même votre guide parle ainsi.
Bah, mon guide, il parle ainsi parce qu'il a grandi dans cette cité et il connaît que ça. Et que l'idée de mixité, enfin, de relation homme-femme, elle est hyper compliquée. Même dans notre relation entre lui et moi, ça a mis du temps. Au début, je le raconte, il voulait pas venir chez moi en l'absence de mon mari. Donc là, je lui ai dit assez rapidement qu'on allait avoir un problème et qu'il fallait qu'on trouve un rapport qui aujourd'hui est beaucoup plus facile, mais qui n'a rien d'évident quand on a grandi, séparé des femmes. Les seules femmes qu'on croit, c'est les femmes de la famille. Les petites sœurs des frères, on leur parle pas parce qu'il faut les respecter. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la nouvelle génération, c'est qu'elles en ont pris leur parti, les jeunes filles. Au lieu de se dire « Ah, on est des victimes, on n'a pas le droit d'aller traîner sur les bancs », et ben qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sortent sur Paris. Et donc, elles disent assez facilement « Mais qu'est-ce qu'on a perdu, finalement ? On a gagné au change. Nous, on leur laisse leur tour moche, leur banc, là où ils passent leur journée à dealer. Et puis, nous, on sort, on va dans les jolies boîtes, on voit des hommes bien élevés. Et là, enfin, loin du regard des grands frères, loin de la tyrannie de la communauté, on vit comme des jeunes filles de notre âge. »
Oui, là, c'est la meilleure version. Hein, parce qu'effectivement, à Trappes aussi, une partie des filles s'en vont et elles s'en vont plus facilement que les garçons. Mais
pas
une
toutes,
autre part, voilà, hélas, s'enferme
et
subit. Donc,
et
effectivement, la situation des femmes est vraiment difficile.
Situation difficile et qui me pousse à m'interroger sur les raisons même de la violence qui peut sévir dans ces quartiers. Hein, il y a des émeutes, on se souvient évidemment de celle de 2005. Et cette violence et même cette haine dont la France est l'objet, on l'attribue souvent à la France elle-même. Hein, c'est-à-dire, on se dit qu'elle a dû faire beaucoup de mal dans le passé et aujourd'hui pour susciter une telle haine et une telle violence. Mais peut-être que le problème vient justement de la situation faite aux femmes. Là, je voudrais vous citer un extrait de la déclaration d'insoumission de Fethi Benslama. « L'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. » C'est-à-dire qu'il y a un tel climat de frustration que ça peut dégénérer en violence. Et je pense que cette explication est plus plausible que cette l'imputation du problème à la France elle-même et à ce qu'elle aurait mal fait pour les banlieues. Raphaël Baquet.
Oui, très certainement, il est évident que cette séparation, cette relégation des femmes entraîne aussi a des conséquences aussi sur les hommes. Donc on le voit bien. D'ailleurs, une partie des hommes en souffre même. L'autre partie trône oui. comme des mâles dans la rue. Mais évidemment que ça déséquilibre une société. Ça paraît évident. Je n'oublierai quand même pas non plus les conditions d'arrivée de leurs parents. Car vous l'évacuez un peu, mais je pense que ça compte aussi. Nous racontons aussi l'arrivée des ouvriers immigrés, justement, à Trappes. Ils sont recrutés par des recruteurs de l'industrie automobile qui vont les chercher dans des villages. C'est des jeunes gens de 20 ans, hein, et qui les inspectent comme on inspecte des bêtes de somme, si vous voulez, et qui vont les amener comme ça à Trappes, déracinés. Et je crois que ça compte. Tout de même,
c'est
très important, si vous voulez, cette mémoire-là, elle se transmet d'ailleurs difficilement, parce qu'il y a assez peu d'ouvrages, mais elle se transmet parfois, justement, sans qu'elle soit bien digérée, si vous voulez, et donc cela compte aussi.
Ça compte notamment aussi dans la façon dont se sont appropriés après les enfants qui sont arrivés dans l'expérience de leurs parents, et le film La haine et la révolte qu'il y avait, elle était là, c'était venger l'honneur des parents, l'honneur bafoué, ces gens qui sont arrivés, qu'on a utilisés parce qu'on avait besoin d'eux à un moment et à qui on n'a pas donné la place dont ils auraient pu rêver.
Pour poursuivre le débat sur ce sujet et pour citer de votre part peut-être des réactions critiques, je voudrais vous citer un des témoignages du livre Une France soumise qui a été publié sous la direction de Georges Bensoussan. On connaît les territoires perdus de la République et l'année dernière, il y a eu une France soumise avec non seulement des témoignages de professeurs, mais cette fois-ci de policiers, de gendarmes, d'infirmières et de médecins. Et un médecin de Seine-Saint-Denis dit qu'il a découvert, avec son expérience professionnelle singulière, la profondeur du mépris et du désamour de la France chez ceux qu'elle a accueillis et concernant mon univers professionnel à médecine de proximité, qu'elle accompagne avec bienveillance et générosité. La France est reconnue pour la qualité, plus encore pour la gratuité des soins médicaux. Cette générosité n'est pas vue comme une force de la France généreuse, qu'on remercie, mais bien plutôt comme un tribut normal d'un pays colonialiste qui doit payer pour ce qu'il a fait. Un jour, un patient que je croyais français naturalisé d'origine algérienne m'avouait « Moi, français à nom docteur, à sa nom jamais ». Et beaucoup de patients plus jeunes, français par le droit du sol, m'assurent, dit-il, que leur pays c'est l'Algérie ou la Tunisie et qu'ici c'est secondaire. Que pensez-vous de ce témoignage, Raphaël Baquet ?
On n'a pas entendu des discours anti-France, si vous voulez, haineux contre la France. En revanche, ce qu'on voit, c'est que l'identité religieuse est une façon de se distinguer et une façon, effectivement, de retrouver une forme de puissance. Hein, et c'est ça qui est le plus frappant, hein, si vous voulez. Quand même, les trois quarts des jeunes gens, en tout cas, de Trappes, sont des Français. Et même s'ils partent encore au bled, comme ils disent, en vacances, si vous voulez, la plupart d'entre eux, franchement, n'y vivraient pas pour un empire. Donc, il n'y a pas tout à fait ça. Il y a en revanche une espèce de repli sur la religion, avec l'idée que cette religion, justement, qui fait peur aux Français traditionnels, si vous voulez. Ça, cette idée-là, ça suscite une forme de fierté aussi.
Oui, enfin, vous dites, si vous n'avez pas entendu le discours anti-France, n'empêche, Trappe est la ville qui a fourni le plus de djihadistes.
Bien sûr.
Et les djihadistes n'étaient pas animés des meilleures intentions vis-à-vis de la France ou de la civilisation occidentale.
Évidemment.
En général.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Bien sûr. Et ce qui frappe, c'est la façon dont, je vous l'ai dit dès le début de cette émission, il y a un ailleurs, si vous voulez, qui nourrit une part de l'imagination d'une partie de la jeunesse à Trappe. Et effectivement, une partie de la population vit avec ce qui se passe en Syrie, si vous voulez. D'abord, la plupart de ces djihadistes ont été tués, hein, il faut bien le dire, et elle vit avec la chute de Raqqa ou la reprise de tel ou tel territoire, et bien sûr qu'on voit bien qu'il y a une espèce de vie parallèle.
Et est-ce que vous avez rencontré, vous, un sentiment anti-français ?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout. J'ai entendu beaucoup de discours sur la revendication d'appartenir à une double culture qui revendique, et la religion peut servir de lien entre ces deux cultures. Effectivement, c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Je le précise aussi dans le livre, dans la cité dans laquelle je travaille, il n'y a pas eu un seul départ en Syrie. Il y a même une incompréhension totale par rapport à ça, avec cette idée d'ailleurs que ce sont beaucoup des illuminés qui partent là-bas parce qu'ils n'ont rien compris à la religion, parce qu'ils sont frustrés ici, parce qu'il y a un séjour en prison qui a dérapé. Mais tout le monde est très sévère sur ces parcours de djihadistes et très vigilant aussi à ce qu'aucun gamin ne dérive dans ce sens-là.
Oui, mais enfin, est-ce qu'on peut parler de double appartenance ou plutôt d'une autre appartenance dans le même livre, dirigé par Georges Bensoussan? Elisabeth Badinter s'inquiète d'un phénomène de sécessionnisme. Il y a ceux qui aspirent à la conquête, comme Youssouf al-Qaradawi et les frères musulmans, c'est-à-dire, oui, on a été chassés deux fois d'Europe et cette fois-ci on va gagner par la démographie et par l'idéologie. Et puis il y a ceux, peut-être plus nombreux, qui veulent simplement instaurer une autre société, une contre-société. Quand vous dites, par exemple, ici, dans cette banlieue, c'est Sidi Bou Saïd sans la mer, c'est plus tout à fait la France, c'est un morceau d'autre chose. Donc,
non,
est-ce qu'on peut pas parler,
France, en fait.
Est-ce qu'on peut parler de sécession en acte?
Non, moi je le vois vraiment pas comme ça. J'ai quand même, c'est la France, c'est un quartier de France, et les gens qui y vivent se sentent et français et tunisiens et algériens. Mais pourquoi on pourrait pas se sentir les deux? Et c'est tout le travail d'équilibriste auquel se livrent les habitants de la cité, et qui est compliqué et qui est peut-être un peu schizophrène, arriver à être à la fois un jeune français moderne avec une fidélité aux traditions de la terre des ancêtres. Et je pense qu'on peut essayer d'être les deux en même temps.
Non mais Alain, ce que vous décrivez, ça existe, puisque à Trappe, il y a 67 départs au djihad. Mais c'est minoritaire, c'est grave, mais c'est minoritaire. En revanche, c'est vrai que le gros des troubles, la double appartenance que vous balayez comme ça, moi ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde se dit franco-algérien, franco-marocain, et lorsque vous êtes français ou française depuis des générations, on vous dit franco-français. C'est-à-dire que l'idée de la double appartenance, elle est totalement inscrite dans le vocabulaire de tout le monde. Et donc, ça, c'est frappant. Et au bout de combien de générations est-ce qu'on peut se dire franco-français ? C'est ça qui est peut-être plus inquiétant, si vous voulez, quand vous vous adressez à des jeunes gens qui, en fait, sont là depuis 3 ou 4 générations.
Ils continuent
à se dire franco-marocain, franco-algérien.
C'est vrai, mais d'un autre côté, je n'oublie pas, moi qui m'intéresse beaucoup au sport, les incidents qui ont émaillé un certain nombre de matchs au début des années 2000. France-Maroc, France-Tunisie, et surtout le célèbre France-Algérie, où le terrain a été envahi par des jeunes gens qui étaient enveloppés du drapeau algérien, c'est-à-dire, et à chaque fois d'ailleurs que l'Algérie joue, il y a des manifestations, des défilés, quelquefois des violences. Donc une identification avec l'Algérie qui est très forte et qui peut prendre prend la forme quelquefois d'une déclaration d'hostilité à la France elle-même. Donc ça, on est obligé quand même d'en tenir compte, Raphaël Baquet.
Oui, et en même temps, quand la France gagne la Coupe du Monde, si vous voulez, les jeunes de Trappe sont en voiture et ils font le tour de Trappe avec un drapeau français. Donc, vous savez, c'est ça la réalité. À vrai dire, ils sont tout le temps pétris de contradictions. Ce qui nous a frappé à chaque fois qu'on parlait à des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, c'est l'espèce de fatras que chacun. T'es tellement de contradictions entre eux. Je suis musulman, je suis pas musulman, je suis français, je suis pas français. C'est ça qui est le truc courant, le plus courant.
Alors, en même temps, quand même, vous écrivez la communauté. La France n'est pas un pays de communauté, normalement.
Oui.
Vous écrivez la part du ghetto.
C'est un défi pour la France.
Oui, la France n'est pas destinée à produire des ghettos. Donc, les questions que je vais vous poser pour finir. Pourquoi s'est-il formé des ghettos s'est-il formé des communautés, et quel remède peut-on apporter à une situation comme celle-là? Je commence par vous, Manon Kérou.
Le remède, en tout cas, je pense que c'est le discours qui ressort beaucoup de ce travail de terrain et d'écoute qu'on devrait faire plus régulièrement, sans doute, c'est que il y a le sentiment d'en avoir marre d'être traité comme une France en marge, en ayant conscience de l'être, quand même. C'est-à-dire de se dire, bon, arrêtez de nous traiter comme des citoyens de seconde zone ou des territoires perdus de la République. En même temps, on a bien conscience qu'on n'a pas le même traitement, on n'a pas la même qualité de vie que Paris intramuros. Et ce que les gens revendiquent le plus, c'est ce retour à la mixité sociale. Ils ont quand même l'impression, en dépit de l'entre-soi, que la solution pourrait venir de ça, d'un mélange. Alors, qui veut aller vivre dans les ghettos?
Si Alice veut aller vivre dans cette banlieue, mais si elle peut pas s'acheter un jambon beurre et si elle doit changer de vestiaire, les gens reviendront
parce
plus.
Parce qu'il n'y a qu'une seule Alice, il faudrait qu'il y ait plusieurs Alice.
Raphaël Baquet, quelle est votre analyse, votre diagnostic et votre solution? Alors,
d'abord, on voit bien que Trappe, elle s'est construite toute pièce. C'est vraiment là la volonté de mettre les ouvriers immigrés dans un même endroit. Hein. Et aujourd'hui encore, par exemple, où on essaie de loger les migrants et de les répartir, on les répartit à Trappe et pas à Versailles. Donc, Versailles qui est à moins de 10 kilomètres de Trappe. Oui. Donc, si vous voulez, ça, c'est une des difficultés. Maintenant, je crois que on voit bien qu'une partie de la population, effectivement, réclame le retour à la mixité. Et quand à Trappe, on dit « Ah, on aimerait bien de la mixité », ça veut dire le retour des Blancs. Donc, très clairement. Hein, bien sûr que ça se joue sur des politiques éducatives ou de logement, mais ça se joue aussi, et une partie vraiment une grande majorité des habitants de Trappe le voient bien, sur le fait qu'il faut remettre la religion à sa juste place. Je redis encore que à Trappe, le personnage le plus populaire, c'est le pharmacien Mustapha Larbaoui, qui a longtemps présidé le club de foot, qui est athée d'ailleurs, bon. Mais en tout cas, c'est pas tellement le problème, c'est que surtout, c'est un laïc convaincu. Et donc, il a absolument imposé qu'au club de foot, on mette la religion à l'écart. Si vous voulez, les garçons qui voulaient se doucher tout habillés ou surtout pas croiser des filles dans le terrain ont été mis au pas. Et il est le personnage le plus populaire de la ville. Donc, on voit bien qu'il y a une partie, en fait, les rigoristes religieux, ceux qui vraiment veulent imposer une forme d'oppression religieuse, si vous voulez, sont minoritaires. Oui, ils sont minoritaires, c'est ça la réalité.
Ils sont minoritaires,
mais très visibles et très actifs.
Et donc, en même temps, les femmes ne vont pas dans les cafés.
Oui.
Donc, et puis d'autre part, il y a les problèmes scolaires, c'est-à-dire la discipline à l'école, et ça remonte à assez loin, parce que vous nous parlez de cette proviseure admirable du collège Gagarine, Aline Peignot, qui a été fêtée en septembre 90, du dossier qu'elle a, des incivilités, et c'est absolument effrayant. Ouais. Bachir ponctue ses interventions en classe de bras d'honneur, Maudit informe le professeur qu'un élève se met un crayon dans le cul, Founé somnole en suçant son pouce et communique avec ses voisins un coup de pied. Nasser déclare à son professeur « Casse-toi folle ». Chéref, toi, son professeur, et déclare « Elle a ses règles ». Il ajoute « T'as qu'à mettre un tampax », etc., etc.
Je vais pas prendre... C'est la liste des violences qu'elle dresse chaque jour.
La liste des violences qu'elle dresse chaque jour. Les choses ne sont pas améliorées depuis. Comment voulez-vous que les gens reviennent?
Oui, bien sûr, c'est toute la difficulté. Et on voit bien que la fuite scolaire, l'évitement scolaire, si vous voulez, est général. Et le lycée de Trappe, par exemple, le lycée général, a toutes les peines du monde à attirer des élèves des classes moyennes. D'ailleurs, beaucoup d'habitants de Trappe vont dans le privé. Hein. On voit bien un des responsables religieux d'ailleurs de Trappe a ses enfants à l'école catholique, à l'école Sainte-Marie.
Et on dit souvent que aujourd'hui on lève les tabous, on transgresse tous les interdits et des paroles qui n'avaient pas lieu d'être il y a encore quelques années se donnent libre cours. Or, vous citez Raphaël Baquet, ce que disait Georges Marchais dans une lettre au recteur de la mosquée de Paris en janvier 81, la présence en France de près de 4,5 millions de travailleurs immigrés, de nom de leur famille, la poursuite de migration pose aujourd'hui de graves problèmes. L'enseignement est incapable de faire face, il faut regarder les problèmes en face et prendre rapidement les mesures indispensables. Donc, est-ce que parmi ces mesures, il faudrait penser, justement, pour sortir du ghetto, Manon Kérou-Brunel, à une autre politique migratoire?
C'est effectivement ce que disait Raphaël Baquet est juste, c'est que aujourd'hui, les nouveaux arrivants, les seuls qui arrivent dans le quartier, ce sont des migrants qui arrivent dans la vague des printemps arabes, donc des jeunes souvent seuls, qui renforcent encore ce sentiment de ghettoisation. Donc les habitants de la cité, donc vous avez cité le père de Malek qui dit ça avec ses mots, mais il y a quand même cette impression, effectivement, qu'ils sont déjà dans la merde et qu'en plus on leur rajoute un fardeau qui est beaucoup trop lourd pour eux, et en disant mais pourquoi vous les accueillez pas dans vos quartiers de riches. Donc là, effectivement, la façon dont on accueille les nouveaux migrants en les marginalisant encore plus et en les mettant dans des quartiers où les gens n'ont pas l'envie, les capacités d'accueillir, c'est pas une solution. Ça on est bien d'accord.
Et Raphaël Baquet, oui, justement, pourquoi citez-vous Georges Marchais? Je pourrais ajouter une citation de Chirac, Jacques Chirac, en 84. Quand on regarde l'Europe par rapport à d'autres continents, on est terrifié. En termes démographiques, l'Europe est en train de disparaître. Alors bon, restons-en à Marchais. Pourquoi vous?
Marchais, bien sûr, parce que c'est l'époque, on raconte comment le Parti communiste lui-même est divisé, puisque c'est une ville communiste, et que jusqu'à place du colonel Fabien, on discute de ces questions, justement, comment faire, pourquoi, est-ce que les Blancs partent, comment on fait, et on voit bien que dans cette ville communiste, très tôt, en fait, s'est posée la difficulté. Hein. Très tôt, on ne savait pas comment faire avec les immigrés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les années 80 et 90, en fait, et c'est ce dont d'ailleurs vont bénéficier la génération Jamel Debbouze ou Omar Sy, ils vont bénéficier à la fois des politiques d'éducation populaire, hein, locale, et en même temps de la volonté, par exemple, des politiques de discrimination positive, comme on les appelle de ce mot horrible, si vous voulez, mais évidemment, Canal+, par exemple, qui va les mettre sur le devant de la scène, ou qui, au PSG, va embaucher Anelka.
On ne sait toujours pas si on a trouvé la solution pour régler ce délicat problème, d'autant plus difficile à trouver qu'à Trappes, vous le dites, la rénovation urbaine a fonctionné, beaucoup d'argent a été donné à la ville, elle a changé de visage, mais la communauté reste la communauté.
Oui, on a consacré l'argent aux immeubles, mais pas aux gens. Et donc, c'est toute la difficulté. C'est une ville assez riante, mais c'est une ville qui est tout de même enfermée sur elle-même.
Alors, je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec Ryan Chemin, Raphaël Baquet, La Communauté. Il est publié aux éditions Albin Michel, Manon Kérouille-Brunel. Vous avez publié avec Malek Dehoun, La part du ghetto, La vérité sur les banlieues, chez Fayard. J'ai cité également le livre dirigé par Bensoussan, Une France soumise, chez Albin Michel. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Football, amour et désamour. Mes invités seront Vincent Duluc et Robert Edecker. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Claire Levasseur. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.